Nous allons lire Matthieu chapitre 6. On est maintenant au chapitre 6 par la faveur divine. Nous allons lire au chapitre 6 dans l'Évangile selon Saint Matthieu pour continuer à traiter de cette thématique du royaume de Dieu dans la congrégation, particulièrement avec ce sujet qui traite de l'éthique. Ou bien des normes, des principes, ou bien des modalités du royaume de Dieu. J'ai déjà attiré l'attention de la congrégation, que ce soit en prédication ou en étude biblique, sur le fait que le sermon sur la montagne représente un discours très important au cours duquel Jésus a eu à exposer, à juger bon. Il a cru bon d'exposer sa philosophie, sa vision de son royaume, du royaume qui est venu en sa personne et en ses œuvres, en son ministère. Il lui a plu, il a plu à notre Dieu, il a plu au Saint-Esprit, il a plu au Fils de Dieu de dévoiler les secrets du royaume ici. Alors, depuis un certain temps, nous nous sommes penchés sur le sermon sur la montagne. Ceux qui ont eu le privilège d'assister à nos séances antérieures, eh bien, ils comprennent d'où est-ce que nous sommes partis, où est-ce que nous sommes rendus et où nous voulons arriver. Parce que le plan a déjà été dévoilé dans les premières séances d'études sur la thématique en question. Alors, notre étude nous amène au chapitre 6 aujourd'hui, parce que, comme je l'avais déjà expliqué, le sermon sur la montagne s'étend du chapitre 5 jusqu'à la fin du chapitre 7 de l'Évangile selon saint Matthieu. Alors, c'est les chapitres 5 à 7 qui constituent, qui représentent la teneur globale du sermon sur la montagne, qui est divisé, bien entendu, en plusieurs unités littéraires, en plusieurs segments, mais le tout, l'ensemble de ces segments forment un tout qui représente le sermon sur la montagne. Alors, je vais lire la parole du verset 6 jusqu'au verset 8 avant qu'on puisse continuer à étudier. Le Christ dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Verset 2. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 3, l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 6. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vu des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Dès le Seigneur, notre Dieu, miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté, bénir et sanctifier la lecture de sa sainte et agréable parole pour la plus parfaite édification commune des âmes de ses enfants, frères et sœurs. Eh bien, vous aurez constaté que Jésus commence ce segment d'enseignement-là, dans le cadre du sermon sur la montagne, avec une mise en garde. Quand il dit « gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. » Alors, nous avons le mot « justice ». On a déjà rencontré, depuis qu'on a commencé l'étude, en tout cas, particulièrement le chapitre 5, on a déjà rencontré le terme « justice » dans ce discours. Et ici, nous avons le même terme. Avant que je puisse préciser le sens du mot « justice » ici, parce que c'est de cela qu'il est question, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Je préciserai le sens du mot justice ici parce que le sens n'est pas tout à fait le même que les autres justices qu'on a déjà rencontrées, les autres termes. Bien sûr, c'est la même finalité, mais il y a quelques nuances. Avant de préciser la nuance, j'aimerais vous rappeler ce qu'on a considéré au chapitre 5, particulièrement au verset 21 à 48. Au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu, les versets 21 à 45, vous vous rappelez de quoi il en est question. Il est question de Jésus qui invite ceux qui aspirent à son royaume à ce que leur justice surpasse la justice des scribes et des pharisiens. On a considéré cela. Et il a donné quelques exemples. Il a considéré quelques situations où, entre autres, la justice des scribes et des pharisiens ne fonctionnent pas. Et cette justice-là, c'est la vision des pharisiens du royaume de Dieu. C'est aussi l'enseignement, la théologie, la compréhension des pharisiens par rapport à un certain nombre d'éléments de ce qu'on appelle la justice morale de Dieu. Jésus dit, en ce qui a trait au divorce, l'enseignement des pharisiens n'est pas correct. On a regardé ensemble. En ce qui a trait au serment, la justice des pharisiens n'est pas correcte. Et en ce qui a trait au meurtre, la justice des pharisiens n'est pas correcte. En ce qui a trait à l'amour ou bien au sentiment à l'égard du prochain, la justice des pharisiens ou bien leur enseignement, leur compréhension de la parole de Dieu a un problème. En ce qui a trait aux relations, particulièrement la loi du talion, Jésus a fait remarquer en Matthieu chapitre 5, les versets 21 à 48, que là aussi, la justice des pharisiens ne fonctionne pas. Ici, il est encore question de justice. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Les hommes ont besoin de voir notre justice. Là n'est pas la question. Le Christ lui-même a dit: vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et il dira plus tard, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc, les hommes sont appelés à voir notre justice. Et alors, comment ça se fait que le Christ dit ici, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu? Est-ce qu'il y aurait contradiction dans l'Écriture, dans un même discours du roi? Poser la question, c'est y répondre. C'est que Jésus parle d'autre chose ici. Les hommes ont besoin de voir notre justice à vous et à moi. Mais puisque dans Matthieu chapitre 5, il est écrit que votre lumière luise ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, c'est plutôt que, et le texte le dit lui-même, il n'y a pas un gros effort d'interprétation à faire ici pour comprendre que la différence entre les deux considérations que le Christ fait. Alors, le texte le dit lui-même, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. La justice ici n'est pas tant l'enseignement des pharisiens sur certains éléments qu'on a énumérés tout à l'heure. La justice, cette fois-ci, est plutôt par rapport à la piété religieuse, par rapport à la piété spirituelle, ou alors par rapport aux actes, eh bien, qu'un homme ou une femme est appelé à poser dans le cadre de son service religieux. En haut, quand Jésus dénonçait l'enseignement des pharisiens, il parlait de leur vision du royaume de Dieu, il parlait de leur enseignement, il prenait les exemples que j'ai énumérés, divorce, serment, meurtre, relations avec les prochains, etc. À peu près environ 6 illustrations, 6 exemples. Et ici, il prend 3 exemples. Il prend 3 exemples pour parler de la justice qui représente des actes de piété, des actes religieux. Il parlera d'abord de la prière. Il parlera de la prière. Il est question de la prière comme un acte de justice, comme une pratique religieuse, comme un acte de piété. C'est un exemple d'élément de justice. Hein? La justice est vue ici, est considérée ici comme étant la pratique de la dévotion spirituelle, de la dévotion religieuse. Et il prend 3 exemples ici. En haut, il en prenait 6 pour dénoncer la justice des pharisiens sous l'angle de leur compréhension de l'Ancien Testament, leur théologie. Et ici, il prend 3 exemples pour parler de cette forme, nouvelle forme de justice. Il considère d'abord l'aumône, ou bien dans les dons, au verset 2 à 4. Il va considérer plus tard la prière, chapitre 5, au verset 5 à 15 plutôt. Et finalement, le jeûne, au verset 16 à 18, un peu plus tard. Bien important de comprendre cela. Jésus met les scribes et les pharisiens en garde contre une justice ici qui cherche à impressionner les hommes. Une sorte de justice exhibitionniste, une justice qui est faite pour que les hommes voient qu'ils posent des actes de justice, des actes religieux, donc des actes de justice. Une justice qui vise les hommes plutôt que de servir Dieu. Jésus dit que la prière, par exemple, le jeûne, par exemple, les dons, l'aumône, par exemple, sont des activités religieuses, sont des actes de piété vaines aux yeux de Dieu, quand ses actes, ou bien ses activités, ou bien ses gestes religieux, quand ceux qui les pratiquent les font pour être vus des hommes. Incidemment, ceux qui pratiquent cette forme de justice, ou bien cette forme de piété spirituelle, Jésus dit qu'ils n'auront aucune récompense auprès de Dieu. Devant les hommes, oui, dit Jésus, ils auront une récompense, certes, parce qu'ils auront les applaudissements des hommes, ils auront la reconnaissance des hommes, ils auront la gloire et la fierté. Donc, ils seront récompensés en pratiquant cette justice qui consiste à se faire voir par les hommes en la pratiquant. Pas de problème. Mais, dit Jésus, devant Dieu, cela ne rapporte absolument rien dans la mesure où ce genre de justice ne permet pas à personne d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est en ce sens-là que c'est inutile. Vous vous souvenez? Jésus a déjà dit que la seule justice qui permet d'accéder au royaume de Dieu, c'est la justice qui surpasse la justice des scribes et des pharisiens. Matthieu 5, le verset 20 qu'on venait de considérer tout à l'heure. Et Jésus, comme je l'ai expliqué, va considérer un premier exemple, l'aumône. On entend généralement par aumône un acte de miséricorde. Nous connaissons tous cela déjà. Un acte de piété qui se traduit habituellement par des dons d'argent. Ça peut être aussi des dons de nourriture, des dons de vêtements. Toutes les fois qu'il y a don, toutes les fois qu'il y a répondre aux besoins des plus de ceux qui ont de ceux qui sont dans le besoin, là, dans d'autres dans certains pays aux besoins de ceux qui sont nécessiteux, eh bien, on est en train de faire l'aumône. Il faut élargir le sens de aumône dans ce contexte à toute forme de don qu'on fait. La littérature évangélique n'a pas de preuve historique qui démontre que les Juifs utilisaient une trompette ou bien quelque autre instrument que ce soit pour annoncer leurs dons qu'ils faisaient aux pauvres. Et pourtant, Jésus dit au verset 2, « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Nous n'avons pas de preuve dans le Nouveau Testament que les Juifs utilisaient des trompettes quand ils faisaient l'aumône pour attirer l'attention des gens. Et Jésus dit, gardez-vous de le faire comme le font les Juifs. Jésus n'est pas en train de mentir non plus, cela dit. Jésus est plutôt en train d'utiliser une image. Quand il dit « ne sonne pas de la trompette devant toi », il utilise une image pour décrire la motivation, l'intention, l'attitude des scribes, des pharisiens et des riches de leur temps, de leur époque, qui cherchaient à attirer l'attention des gens, l'attention des hommes, dans les synagogues et dans les rues. Parce qu'on faisait l'aumône un peu partout, comme aujourd'hui. Et à chaque fois qu'ils le faisaient, ils trouvaient un moyen efficace, selon eux, pour se faire voir en train d'exercer la charité, de faire l'aumône. C'est cette attitude que Jésus décrit comme étant le fait de sonner de la trompette. Et Jésus le dit, ils reçoivent leur récompense, toujours au verset 2. La récompense qu'ils désiraient, nous l'avons dit tout à l'heure, c'était la reconnaissance, c'était les applaudissements, c'était la louange des hommes, c'était la gloire, la fierté. Et cela, dit Jésus, ils la recevaient, voyez-vous, verset 2. Ils reçoivent leur récompense. C'est avec cela que Jésus termine le verset 2. Ils reçoivent leur récompense. Nous l'avions dit. Oui, ils ont leur récompense. C'est pour cela qu'ils travaillaient. Ils l'ont. La plupart du temps, ils sont vénérés par les hommes. Ils sont glorifiés par les hommes. Ils sont reconnus par les hommes. Ils sont applaudis par les hommes. Et Jésus est en train de dire que ceux qui donnent dans le but de se faire remarquer, d'impressionner, eh bien, ils ne recevront pas d'autres récompenses. Et encore moins, ils ne recevront pas la récompense de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà leur récompense qui venait des hommes. Jésus est en train de dire que quand on donne pour plaire aux hommes, la récompense sera ce que les hommes peuvent donner. Ça ne peut pas être autre chose. La récompense viendra des hommes. Quand on donne pour plaire aux hommes, la récompense viendra des hommes. Lorsque les gens recherchent les bénédictions des hommes, ils se privent des bénédictions de Dieu. Rechercher ici les bénédictions des hommes, c'est chercher à attirer l'attention des hommes quand on donne. Et on reçoit ce que les hommes donnent. Mais en même temps, cela fait perdre les bénédictions de Dieu. Jésus est en train de nous dire que quand on donne à ceux qui sont dans le besoin, ce qui est important, ce n'est pas l'approbation des hommes, c'est plutôt l'approbation de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire dans le sermon sur la montagne, quand il dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. » Il va parler d'autres formes d'actes de justice, mais il commence avec l'aumône, commence avec les dons. Ce qui est important, c'est l'approbation de Dieu. Donc, il est important que ceux qui sont dans le royaume, ceux qui aspirent à devenir membres du royaume de Dieu, de se contenter d'avoir Dieu pour seul témoin de leurs dons, pour seul témoin de leurs bienfaits, pour seul témoin de leur aumône. Et quand on fait cela, Jésus dit que c'est alors que nous pouvons espérer, vous et moi, les récompenses venant de notre Dieu, frères et sœurs. Verset 3, « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » Jésus n'en finit pas de traiter de cette attitude injuste des pharisiens, des scribes, mais des riches de son époque. « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » Verset 4, « Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Les mots que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, apparemment, à la forme d'un proverbe, d'une expression littéraire toute faite dans le langage de l'époque. Un proverbe, une image que Jésus utilise ici pour expliquer, pour dire simplement que quand on fait un don, en tout cas dans l'économie du royaume, c'est de même que ça marche, quand on donne, il faut le faire de la manière la plus spontanée possible et surtout sans étalage d'aucune forme dans le but d'être remarqué et glorifié par les hommes. Autrement dit, d'après l'éthique du royaume de Dieu que Jésus est en train de déballer ou de révéler, de dévoiler, d'après les principes de fonctionnement du royaume, le royaume qui est venu en Jésus-Christ, le royaume dont nous sommes porteurs et dans lequel nous sommes, les dons, les aumônes, les plus satisfaisants et ceux que Dieu bénit, ce sont les aumônes, les dons qu'on oublie une fois qu'on les aura faits. Dans le royaume de Dieu, est en train de nous dire Jésus, dans Matthieu chapitre 6, les dons sont appelés à être faits dans un esprit d'amour. Un esprit d'amour qui vise à répondre à un besoin. Uniquement ça qui doit être la motivation du don. Pas pour se faire voir, pas pour se faire remarquer, dit Jésus. Et quand le besoin est comblé, le donateur poursuit son chemin sans attendre ni désirer de reconnaissance, d'applaudissement, de gloire de la part des hommes ou bien envers celui à qui le don a été fait. Autrement dit, que la personne qu'on aide dans le royaume de Dieu soit ou non reconnaissant, est en train de nous dire Jésus, cela ne devrait pas avoir d'importance, puisque ce n'était pas là notre objectif. Notre objectif, c'était de répondre à un besoin, c'était de servir Dieu, c'était de nous acquitter de notre devoir chrétien. Les Juifs ne l'ont pas compris, les scribes ne l'ont pas compris, les riches, les pharisiens ne l'ont pas compris. Et Jésus est en train d'expliquer quelle est la bonne vision des choses, quelle est la bonne démarche, quelle doit être l'intention derrière l'acte religieux, la piété spirituelle, la piété religieuse sous l'angle d'abord des dons, plus tard de la prière et plus tard du jeûne. C'est ça la démarche du Fils de Dieu, ici, frères et sœurs. Si la personne envers qui nous avons fait un don n'est pas reconnaissante, tant pis pour elle. Nous sommes désolés. Et non, tant pis pour nous. Ce n'est pas pour nous que nous sommes désolés. Nous sommes désolés pour la personne. De ce point de vue, ou alors, du point de vue du royaume de Dieu, la libéralité ou bien la générosité, c'est synonyme de don de soi. C'est synonyme d'oubli de soi. C'est synonyme de sacrifice ou bien d'esprit de sacrifice, on va le dire comme cela. Et non d'autosatisfaction. Et non de fierté. Il n'y a pas de fierté à avoir. Il n'y a pas d'autosatisfaction à avoir dans l'exercice de la générosité ou de la libéralité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'objectif de celui qui donne, de celui qui fait le bien. Les enfants du royaume, dit Jésus, sont appelés à pratiquer une générosité ou bien une libéralité dépourvue d'intérêt, dépourvue de calcul. Puisque le don qu'il fait devrait même être un secret pour la main gauche, pour lui-même. Quand Jésus dit, Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Ce que Jésus est en train de dire. Oui, c'est de ne pas laisser une autre personne le savoir. Mais il dit plus. Même la personne qui fait le don, c'est sa main gauche, hein. C'est ta main gauche qui n'a pas besoin de savoir ce que fait ta droite. Autrement dit, toi, tu t'attardes pas là-dessus. Une fois que c'est fait, c'est terminé. C'est un effort même de l'oublier. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. C'est comme si toi-même ne devrais pas savoir ce que tu as fait. C'est une extrapolation pour dire, il faut l'oublier. Autrement dit, non seulement que le citoyen du royaume ne doit pas faire connaître sa libéralité aux autres, mais d'une certaine manière, il ne cherche pas à s'informer, même par lui-même, de sa propre libéralité. On sait que ce n'est pas possible, mais en termes d'effort de s'élever, en termes d'oubli de soi, en termes de s'attendre à des applaudissements, c'est pour expliquer combien il ne convient pas de s'attendre à la gloire, à des applaudissements, à l'autosatisfaction, que Jésus dit, il faut de même que la main gauche, une fois fait, qu'elle a fini de travailler, la main droite n'a même pas besoin de le savoir. Une manière de dire que il ne faut pas chercher à se souvenir du don qu'on a fait dans un but ou bien dans un objectif d'autosatisfaction personnelle. Pourquoi? Parce que cela expose le donateur à l'orgueil. Et aussi parce que ce n'est pas ça le but de la libéralité, le but de la générosité, suivant les principes du royaume. Suivant les principes pharisaïques, oui. Suivant les principes des scribes, oui. Mais lorsque le royaume est venu, le royaume a apporté des choses nouvelles quant à la conception de tout ce qu'on a regardé déjà ensemble, quant à ces éléments qu'on est en train de regarder. C'est autre chose. Dieu va faire une chose nouvelle dans la venue du royaume, à travers la venue du royaume, à travers les fils du royaume aussi. Il ne faut pas détourner un acte de miséricorde en un acte de vanité, dit Jésus. Cela dit, regardez bien, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je l'ai dit tout à l'heure. Cela dit, Matthieu chapitre 6, les versets 3 à 4, ne veut pas dire que toutes les bonnes œuvres doivent être faites dans le secret le plus absolu. Loin de là. J'ai attiré ton attention sur le verset 16 du chapitre 5 déjà, où nous lisons que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Mais oui, les hommes peuvent voir la bonne manière de faire, de servir, de vivre, la générosité, la libéralité, le cas échéant des enfants du royaume. Il n'y a pas de problème. La question, ce n'est pas si nos bonnes œuvres devraient être ou non vues par les autres, par les hommes. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de traiter. Jésus est plutôt en train de traiter de l'intention de nos œuvres, de notre libéralité, de notre générosité, de pourquoi nous le faisons, pourquoi nous donnons. Est-ce pour être vu ou pour servir Dieu? Ça se peut qu'on fasse des bonnes œuvres, qu'on exerce la libéralité, puis les autres le voient. En temps et lieu, les autres le verront d'ailleurs. Il faut qu'ils le voient d'ailleurs. Mais quelle était l'intention de celui qui donnait, de celui qui le faisait? C'est ça la différence. Quand nous faisons nos bonnes œuvres, afin que l'attention et la gloire portent sur notre Père qui est dans les cieux, plutôt que sur nous-mêmes, nous n'avons pas de problème si les autres le savent. Nous plaisons déjà à notre Dieu. Notre intention est centrée sur Dieu. Nous avons Dieu pour centre, pour objectif. Mais lorsque ces mêmes bonnes œuvres-là sont faites pour être vues des hommes, c'est là où le bât blesse. Dans la mesure où elles sont motivées par par la propre justice. Et c'est là que Dieu rejette ces bonnes œuvres-là. Parce que Dieu est omniscient. Il est capable de savoir les bonnes œuvres qui l'ont visé et ceux qui ont visé les hommes, la gloire des hommes. Autrement dit, la différence n'est pas dans est-ce que les hommes le savent ou non. La différence est plutôt dans le but et la motivation. Donnons-nous pour plaire à Dieu ou donnons-nous pour nous plaire? C'est toute la question ici. Quand la chose que nous faisons, quand le don qu'on fait est dans le bon esprit, pour la bonne raison, il est inévitable que les autres vont le savoir. Ça ne sera pas par notre propre démarche, mais les autres vont finir par le savoir. Lorsque l'aumône, ou bien les dons, ou bien lorsque la libéralité, la générosité s'exerce en secret, avec amour, sans prétention, sans exhibition, sans rechercher la reconnaissance ni l'appréciation des hommes, Jésus dit que notre Père céleste, qui voit dans le secret, nous le rendra. Verset 4. Le principe de ce que nous comprenons des propos du Fils de Dieu, du Christ, du roi des rois, le principe est celui-ci. Si les hommes, si celui-ci, le donateur, c'est celui qui fait le bien, l'oublie, Dieu s'en souviendra. Et si le donateur se souvient du don, Dieu l'oubliera. L'objectif du donateur est appelé à être, du point de vue du royaume de Dieu, de répondre à chaque besoin que le donateur est en mesure de répondre et laisser à Dieu comptabiliser. La comptabilité appartient à Dieu et non au donateur. Parce que l'œuvre est pour Dieu, le don est pour Dieu. Ce qu'on donne vient de Dieu, on le donne pour la gloire de Dieu. En faisant cela, le donateur ou la donatrice démontre qu'il est conscient que Dieu sait ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Et partant, Dieu ne manquera. Il montre qu'il est conscient que Dieu ne manquera pas de donner la récompense qui vient avec cela. Votre Père céleste qui est dans les cieux te le rendra, dit Jésus. Il le saura, puisque nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux chapitre 4, le verset 13. Le Seigneur connaît le cœur de ses enfants. Il connaît le cœur des siens. Il connaît les motivations de ses enfants. Il connaît les motifs, les buts, les intentions, les mobiles d'action de ses enfants. Et chaque récompense que nous devons avoir, eh bien, nous l'aurons. Chaque récompense que Dieu promet, en ce sens, elle sera donnée. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier nos œuvres. C'est dans la volonté parfaite de Dieu, c'est dans le plan, dans le dessein éternel de Dieu, d'accorder, de donner des récompenses à ceux qui croient en lui, qui travaillent pour lui, qui œuvrent pour lui, qui lui obéissent fidèlement, frères et sœurs. Et ce n'est pas non biblique de s'attendre à une récompense de la part de Dieu. Bien sûr, Dieu ne nous doit rien. Mais je m'attends aux récompenses de Dieu parce qu'il me les a promises. C'est toute la différence. Quand je m'attends à une récompense de la part de mon Dieu, ce n'est pas parce que je crois que je dois à sa récompense. Je mérite d'être exterminé, d'être écrasé. Mais je sais que dans sa grâce, Dieu me récompensera parce qu'il l'a promis dans sa grâce. C'est en ce sens que vous avez le droit, en tant qu'enfant du royaume, j'ai le droit d'espérer les récompenses de notre Dieu. Et c'est tout à fait correct si notre service est motivé par des récompenses divines. Ce n'est pas anti-biblique, ce n'est pas non-biblique. Travailler pour avoir des récompenses de Dieu, on ne parle pas du salut de la vie éternelle. C'est d'abord un privilège, mais c'est un acte de foi. Le chrétien ne travaillera pas pour des récompenses en espérant obtenir des récompenses, en s'attendant à des récompenses de la part de son Dieu, comme quelqu'un qui dit « Dieu, débrouille-toi, loin de là », mais plutôt comme quelqu'un qui dit « Seigneur, dans ta parole, tu me promets que tu as des récompenses pour ceux qui te sont fidèles, pour ceux qui ont des motivations saines et saintes. Je prie que tu me fasses la grâce de t'être fidèle, d'être obéissant, parce que je sais que tes récompenses sont certaines, elles sont véritables, et c'est tes récompenses qui élèvent, qui bénissent. Je m'attends, dans ta grâce et par ta grâce, à ce que je puisse avoir ces récompenses-là. Ce n'est pas malsain de s'attendre à des récompenses de votre Père céleste qui est dans les cieux. Nous faisons nos dons dans un esprit d'humilité, dans un esprit de reconnaissance envers notre Dieu, sachant que notre Dieu manifeste sa grâce à ceux qui ne méritent pas sa grâce. Quand on s'attend à des récompenses de la part de notre Dieu, nous ne nous croyons pas nécessairement méritoires ou bien méritants. Il y a un problème quand nous nous croyons méritants. Mais quand on le fait dans la grâce, quand on s'y attend dans la grâce, c'est biblique. La plus grande récompense qu'un croyant puisse avoir, c'est de savoir qu'il est agréable à son Seigneur. Notre motif pour espérer des récompenses devrait être la joie anticipée de déposer un jour comme aujourd'hui. Nous avions déjà étudié l'Apocalypse, hein? Vous vous rappelez quand nous parlions de l'Apocalypse chapitre 4, versets 10 à 11? Gloire au Seigneur. Hein? Nous avons eu l'espérance de pouvoir jeter un jour nos récompenses aux pieds de notre Dieu, comme le feront les 24 vieillards un jour, qui jeteront leur couronne devant le trône de Dieu en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. » Amen. Jésus vient de dire, en Matthieu chapitre 6, les versets 1 à 4, qu'il est important de ne pas faire comme les scribes et les pharisiens et les riches de leur temps, de leur époque, en faisant des dons, en donnant, en sonnant de la trompette, c'est-à-dire en cherchant par tous les moyens possibles et imaginables à se faire remarquer, à dire c'est nous qui l'avons fait, c'est nous qui l'avons fait, c'est nous qui l'avons dit, c'est nous qui l'avons réglé, nous qui l'avons traité. Et il prend l'exemple du don. Comme je vous l'ai dit en introduction d'étude, il considère un deuxième exemple. C'est la prière. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense comme tantôt. Chez les Juifs, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, chers amis visiteurs, chez les Juifs, la position normale pour prier était la position debout. Hein? Apparemment, ça a évolué. Je vais faire quelques remarques avant de commencer à expliquer le texte. La première remarque est la suivante. Chez les Juifs, et c'est très important de comprendre la remarque, parce que la remarque va nous aider à faire une nuance. C'était la position debout. Dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, nous voyons les fidèles de Dieu prier à genoux, prosternés ou bien debout. Il n'y a pas de problème à prier debout, autrement dit. Je vais le dire tout à l'heure, comme il faut, mais je commence à vous aider à comprendre quelque chose. Et à l'époque du Nouveau Testament, la position la plus commune pour prier, c'est la position debout. Et pourtant, Jésus est en train de parler de la position debout comme si c'était debout qui était le problème. Encore une fois, ce n'est pas debout qui est le problème. C'est ce que votre frère est en train de vous faire remarquer. Ah, il y a beaucoup de fausses doctrines sur ce verset-là. Vous allez voir des gens qui vont dire aux autres de ne pas prier debout. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de traiter. Jésus n'est pas en train de traiter de la position à prendre pour prier. Il est en train de parler de l'intention qui anime des gens qui prient. Encore une fois, il est question de prier debout pour se faire remarquer. Ce n'est pas pareil à juste prier debout. Le Fils de Dieu, le roi, ne traite pas de comment se tenir pour prier. Es-tu debout, es-tu assis? Ce n'est pas de ça qu'il est en train de parler. Il est hors de propos. Ce n'est pas les propos du Christ. C'est plutôt d'être debout dans les synagogues et dans les rues afin d'être remarqué qui est problématique ici. Deuxième considération. Les synagogues, c'était les lieux les plus appropriés pour faire des prières publiques au temps où Jésus parlait là. Les synagogues, c'était l'endroit où les Juifs adoraient le plus souvent, surtout les Juifs qui vivent très loin du temple, comme au temps de Jésus. La synagogue, c'était ce local pour se réunir, non seulement pour l'adoration comme aujourd'hui. Dans mon quartier où je travaille, je les vois à tous les jours. Non seulement pour l'adoration, mais aussi pour diverses réunions de citoyens, réunions civiques, réunions sociales, communautaires. Autrement dit, les prières qui sont faites avec sincérité à n'importe laquelle de ces réunions-là, il n'y a pas de problème. Jésus n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas prier dans les synagogues. Le Fils de Dieu a enseigné dans les synagogues. Les saints apôtres ont enseigné dans les synagogues. Donc, ce n'est pas la synagogue le problème ici nécessairement. C'est l'intention. Ce n'est ni la posture, ni l'endroit. Ce ne sont pas les rues le problème ici. C'est l'intention quand on est dans les rues. Ou peut-être pourquoi on s'en va dans les rues pour prier, qui est le problème. Il est 21h. Je n'ai pas besoin d'avancer. De toute façon, je ne terminerai pas cette unité-là. Je préfère vous laisser un petit temps. Si vous avez des questions, on reviendra sur le deuxième exemple de piété, d'acte de piété, en l'occurrence la prière. Nous y reviendrons, peuple du Seigneur. Je ne veux vraiment pas dépasser le temps. Alors, 4-5 minutes pour quelques questions ou commentaires. Et puis, nous y reviendrons pour les approfondir, Dieu voulant, mercredi, si le Seigneur nous prête, et nous prête vie, s'il conserve le souffle qu'il nous a donné. Alors voilà, quelques questions pour vous, si vous en avez besoin, ou peut-être quelques commentaires, quelques appréciations, quelques expériences à partager avant que je puisse remettre l'antenne au frère Edzer pour la clôture. Et encore une fois, ça va être une strophe, s'il vous plaît, pour que nous puissions relâcher le peuple de Dieu à l'heure. Alors voilà. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Mm-hmm.